The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le deuxième épisode de notre série consacrée à Hiroshima en compagnie de l'historien Olivier Vieviorca, auteur chez Perrin de l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'épisode précédent, nous avons rappelé le contexte dans lequel la bombe atomique va être lancée sur Hiroshima, la guerre du Pacifique. Alors qu'en mai 1945, la guerre en Europe s'est achevée avec la capitulation de l'Allemagne, dans le Pacifique, l'objectif des Alliés est maintenant de faire fléchir au plus vite le Japon, militariste et nationaliste, qui, malgré les défaites et les pertes humaines considérables, refuse de capituler. Comment faire céder l'Empire du Soleil Levant? En juillet 1945, à la conférence de Potsdam, qui réunit les dirigeants des trois pays vainqueurs, le nouveau président américain, Harry Truman, en aparté, informe Staline que son pays possède une arme secrète nouvelle d'une puissance inédite. Staline n'a pas l'air vraiment surpris, et pour cause, grâce à ses espions, il en connaît déjà l'existence. Cela fait 3 ans et demi seulement que les Américains ont lancé ce qu'on appelle le projet Manhattan, un projet ultra-secret de recherche sur l'énergie nucléaire.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Tout a commencé pour les Américains en août 1939, quand le prix Nobel de renommée mondiale, Albert Einstein, juif allemand exilé aux États-Unis, a écrit au président Roosevelt pour l'inciter à initier rapidement des recherches dans ce domaine et l'alerter du risque que l'Allemagne nazie pourrait être la première à posséder la bombe. Le 3 août 1939, Einstein écrivait à Roosevelt. Ces 4 derniers mois, il est devenu possible, grâce aux travaux de Joliot en France, ainsi que ceux de Fermi et Szilard en Amérique, de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Grâce à elle, une grande quantité d'énergie et de grandes quantités de nouveaux éléments similaires au radium pourraient être produits. Maintenant, il semble presque certain que cela pourrait être atteint dans un très proche avenir. Une lettre écrite donc en 1939. Mais il faudra attendre début 1942, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, pour que le gouvernement américain se décide à créer un groupe de recherche sur le nucléaire. Pouvez-vous nous rappeler, Olivier Vieviorca, quelles sont les grandes étapes à partir de 1942 de ce qu'on appelle le projet Manhattan et de la construction de la bombe?
Alors, il n'y a pas véritablement de grandes étapes, dans la mesure où le problème qui se pose aux Américains n'est pas de découvrir le secret de la fission de l'atome. Au fond, d'un point de vue théorique, la science a bien avancé et les Américains, comme d'ailleurs les Allemands, connaissent le processus scientifique. Donc le véritable problème pour eux va être de passer d'une recherche fondamentale à une recherche appliquée et surtout de créer un processus industriel. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, de date majeure, hormis par exemple la réaction en chaîne que Fermi, ce savant italien, réussit à déclencher. Mais il y a une série de progrès qui vont permettre précisément à ce projet Manhattan de donner naissance à la bombe atomique. Alors, le premier élément, c'est bien entendu d'obtenir de l'uranium. Cet uranium, ils l'ont obtenu notamment grâce au Congo belge, puisque l'un des patrons des mines du Congo a réussi à envoyer un stock d'uranium à Staten Island. Donc les Américains vont avoir, grâce à cet uranium du Congo, la matière première. Ensuite, il faut enrichir cet uranium, et donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Ensuite, il va falloir, une fois qu'il y aura cet enrichissement, pouvoir fabriquer une bombe, et ensuite, cette bombe, l'acheminer vers le théâtre d'opération.
Donc c'est un projet coûteux, qui va coûter plus de 2 milliards de dollars, qui va mobiliser de plus en plus de monde au fil des mois, jusqu'à 150 000 personnes, avec à sa tête un militaire, le général Leslie Grove, et pour la direction scientifique, le physicien Robert Oppenheimer. Les travaux de conception et de fabrication des composants sont menés dans le plus grand secret au laboratoire national de Los Alamos, dans le Nouveau-Mexique. Et l'arme au plutonium est testée pour la première fois lors de l'essai Trinity, réalisé le 16 juillet 1945 à Alamogordo, au Nouveau-Mexique.
Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur.
Ce qui est étonnant, c'est que ce premier essai, au résultat très incertain, a été réalisé très tardivement, seulement 3 semaines avant le lancement de la bombe sur Hiroshima.
Très tardivement, et c'est un élément important, très tardivement parce qu'il a fallu d'abord avoir les quantités d'uranium ou de plutonium nécessaires, ce qui a pris du temps, hein. On compte en grammes, on arrive en kilos, hein. C'est cela la réalité, et c'est un processus qui est très lent. Bon, et il a fallu ensuite voir la manière dont on pourrait faire exploser les bombes, ce qui n'était pas évident. Donc tout cela a pris du temps, ce qui explique que le premier essai de la bombe à plutonium ne soit réalisé que le 16 juillet 1945, comme vous l'avez rappelé. C'est important parce que pour beaucoup de savants, qui étaient parfois d'origine juive, qui venaient en règle générale de la vieille Europe, la bombe devait être utilisée d'abord et avant tout contre l'Allemagne. Et c'est pour cette raison que cette fabrication a pu prendre, pour certains d'entre eux, l'allure d'une croisade. À partir du moment où on l'utilise contre le Japon, les réticences morales vont être beaucoup plus fortes. Ce n'était pas pour cela qu'ils ont consacré du sang, de l'énergie, de la sueur à fabriquer la bombe atomique.
Le 16 juillet 1945, donc le jour du premier essai, fait à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, Truman est à Potsdam avec Churchill et Staline quand on lui transmet un télégramme où il est simplement écrit « Naissance satisfaisante des bébés ». Immédiatement, le président américain donne l'ordre que 2 bombes atomiques soient transportées à San Francisco, d'où elles seront acheminées en bateau jusqu'à la base américaine de Tinian, dans le Pacifique. Le 26 juillet 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine adressent au Japon la déclaration de Potsdam.
Alors cette déclaration de Potsdam est signée par 3 puissances, mais vous avez un absent, une absente, l'Union soviétique. Officiellement, l'Union soviétique n'est pas en guerre contre le Japon, ce qui explique, bien entendu, que la déclaration de Potsdam ne soit signée que par les belligérants. Mais c'est une manière de l'exclure du théâtre d'opérations pacifique, et Staline comprend très bien la manœuvre. L'autre élément qui est intéressant, c'est que la déclaration de Potsdam incite les Japonais à se rendre. On pourrait donc imaginer qu'elle soit, dans une certaine mesure, conciliante. Or, ce n'est absolument pas le cas. La déclaration de Potsdam promet la dévastation à l'Empire du Soleil Levant, exige que le Japon se rende, et si jamais le Japon ne se rend pas, eh bien, les anglo-américains, les sino-anglo-américains promettent une dévastation de l'archipel qui sera absolument terrible. Ce qu'il y a donc de frappant dans cette déclaration, c'est son ton qui n'est en rien conciliant. Et donc beaucoup d'historiens l'interprètent comme une manière de légitimer ex ante l'usage de la bombe atomique. C'est-à-dire que l'on va, au fond, adopter une politique et une position si intransigeante à l'égard de Tokyo, que Tokyo, bien évidemment, va refuser les termes de cette déclaration qui, dans une certaine mesure, sont même un peu insultants, et que, du coup, ce refus va autoriser, légitimer les États-Unis à utiliser l'arme absolue.
Mais à ce stade, les Japonais ne peuvent pas imaginer ce qui les attend à Hiroshima.
Non, personne ne l'imagine. Personne ne l'imagine. Donc les Japonais, bien entendu, sont habitués au bombardement. Vous avez eu en mars 1945 le grand bombardement de Tokyo. Donc ils ont l'habitude, effectivement, d'être pilonnés par l'US Air Force. Mais personne n'imagine le feu nucléaire. Personne, non seulement du côté japonais, mais du côté américain. Quelles seront les conséquences de la bombe atomique? Comment cela va se passer? C'est un domaine extrêmement inconnu pour l'ensemble des protagonistes. Même les scientifiques ignorent quels seront les effets concrets et réels. Par exemple, les radiations qui vont exercer leur ravage après l'explosion de la bombe, eh bien ces radiations sont encore mal connues.
Merci Olivier Viaviorca. Dans le prochain épisode, je raconterai le 6 août 1945, donc le jour où le bombardier américain surnommé Enola Gay va larguer la première bombe atomique sur Hiroshima.